Bonjour, c'est Sonia Kronlund. Les pieds sur terre, c'est des histoires, des enquêtes, des reportages. Et en fin de semaine, je vous propose en bonus des épisodes forts, marquants ou touchants à redécouvrir.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre ce que certains appellent une « safe place ». Un lieu où elle se sent en sécurité, protégée et aimée, où elle peut être différente et partir à la recherche de qui elle est. Un lieu à partir duquel elle va pouvoir se développer, se déployer, s'affirmer. Une safe place, ce ne sont pas seulement des murs, en l'occurrence les murs du CDI du collège Émile Zola à Waterloo. C'est un espace mental de confort, de bienveillance et de tolérance, où elle peut penser à elle-même et partant de là, s'ouvrir aux autres. Pas très loin de ce que Virginia Woolf appelait un lieu à soi, ou une pièce, ou une chambre à soi, selon les traductions. Et il se trouve que les autres, avec lesquels elle va faire connaissance, auxquels elle va s'ouvrir, ce ne sont pas ses camarades de classe, mais des livres, beaucoup de livres, qui vont devenir à leur tour des espaces de liberté et de connaissance qu'elle pourra emmener avec elle dans son sac. Enfin ça, c'est si on la laissait lire en dehors de cet espace-là. Ce lieu, enfin, c'est une femme qui l'habite, le rend vivant et lui donne bien plus que ce qu'elle devrait en théorie. La jeune fille dont je vous parle a 14 ans, elle vit à Waterloo, dans le Nord, et si vous écoutez son histoire, signée Alice Babin jusqu'au bout, vous saurez pourquoi elle s'appelle Knowledge.
Je m'appelle Knowledge, j'ai 14 ans et je vis à Waterloo, c'est une ville dans le nord de la France. Je suis en troisième, je suis en famille d'accueil depuis que j'ai un mois je crois, quelque chose comme ça. Du coup si je suis en famille d'accueil, c'est que mes parents ne savent pas s'occuper de moi et je sais que ma mère elle a une maladie et c'est tout. Ma mère je la vois une fois par mois mais enfin, vu que j'aime pas trop... Les visites, je la vois moins souvent. Et mon père, je le vois plus. Depuis que je suis petite, jusqu'à mes 10 ans, j'étais dans ma première famille d'accueil. C'est un peu comme si c'était des autres parents. Et c'est vrai que je me suis plus attachée à eux qu'à mes parents, en fait. De mes 10 ans jusqu'à 13 ans, je suis arrivée dans une autre famille d'accueil. Après, j'ai encore changé de famille d'accueil. Et... Bah là, ça se passe bien. Quand je suis arrivée en 6e, le premier jour où je suis allée au CDI, c'est parce qu'en fait, j'avais une amie, c'était une nouvelle. Elle était en cours de physique à côté de moi et elle n'était pas là. Je me suis dit, bah, elle est partie. Et c'est là que, à midi, je suis partie à sa recherche pour aller la voir. Et en fait, elle était au CDI, elle lisait un livre. Et donc, je suis rentrée dans cet endroit et... J'ai vu qu'il était beau. Au début, je me suis dit, il a l'air cool cet endroit. J'étais fascinée par le CDI. C'était un lieu grand. Forcément, il y avait plein de livres, du coup. Il y avait plein de couleurs, plein de décorations. Il y avait un coin lecture avec des poufs. Et un autre coin avec un grand fauteuil et une table basse. C'était chaleureux. Et c'est là que c'est la première fois, je crois, que j'ai vu Madame Nick.
Je m'appelle Pascal Nick, je suis professeur documentaliste dans un établissement du nord de la France, près de Lille, dans une ville qui s'appelle Waterloo. Voilà, j'exerce ce métier de documentaliste depuis 1991. J'ai fait des études de lettres et j'ai toujours pensé que je serais professeur de lettres. Et un jour, j'ai rencontré dans un collège où j'avais fait mes premiers mois en tant que remplaçante, une conseillère d'orientation qui m'avait dit « Pascal, il y a un nouveau CAPES qui vient de sortir. » Voilà, c'est un CAPES de documentation. Maintenant, les documentalistes seront des gens qui passeront ce concours. Donc moi, je me suis dit « voilà, pourquoi pas ?» Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à ce concours que j'ai eu dès la première année où il a été mis en place. dans les textes officiels, on dit que, on a dit en tout cas que le CDI, le Centre de Documentation et d'Information, c'était le poumon de l'établissement, le cœur de l'établissement. C'est vraiment un lieu où il se passe des milliers de choses. Nolette, je la connais depuis la sixième, maintenant elle est en troisième. Il se trouve que j'avais fait un petit atelier philo en sixième avec sa classe. Et Nolette, ben, tout de suite, j'ai repéré qu'elle avait une grande appétence, que c'était parmi tous ces jeunes que j'ai rencontrés depuis des années, quelqu'un qui avait un vrai souci, un vrai désir de savoir, une vraie curiosité. Elle s'intéressait à tout au CDI, les livres de sciences, les livres d'histoire, la littérature. Et puis elle était très... C'était une petite fille qui demandait plein de choses. Donc voilà, j'ai été interpellée par elle.
Madame Nick, elle est grande, elle a en fait des cheveux gris et blancs. À chaque fois, elle met toujours des habits de couleur. Elle a des cheveux longs. Des fois, elle se maquille un peu, je crois. Un peu un petit rouge à lèvres rosé. Et elle est joyeuse. Il y avait, je sais pas, un lien naturel, c'est... Parce que après, je commence à aller tout le temps au CDI. À la récré, au temps du midi. Mais pas forcément pour les livres, du coup, bah pour lui parler. Enfin, j'y allais pour les livres aussi, mais plus pour aller la voir. Je me rappelle de mon premier livre que j'avais lu au CDI. C'était un livre de Roald Dahl, c'était une bande dessinée. Et je l'avais lu dans le fauteuil, dans le grand fauteuil à côté du bureau de Amy. Je m'en souviens que c'était mon premier livre. Et... Mon livre préféré, c'est, je l'ai découvert au CDI, c'était Les Hauts de Hurlevent de... Je sais plus si c'est Charlotte ou Anne, à chaque fois je me trompe. Bonté. Et c'est là que j'ai découvert le livre que j'adore. Et je l'ai lu comme ça, en un week-end, un truc comme ça. C'est ma amie qui me conseillait lecture parce qu'elle connaissait les livres que j'aime, plus ou moins. Je pouvais pas deviner ses livres. Dans ma deuxième famille d'accueil, eh ben ça se passait pas très bien. À chaque fois, sur la route pour rentrer chez moi, je me disais « Oh non, j'ai pas envie de rentrer chez moi. » Dans la famille où j'étais, c'était plutôt un endroit sec, rigide. C'était austère. Généralement, quand on est en famille d'accueil, eh ben on appelle soit tata, tati, etc. Mais... La personne qui m'accueille chez elle. Pour moi, c'était un principe de l'appeler Tati. Donc, du coup, bah, je l'appelais par son prénom. Et déjà, ça, elle aimait pas. Et bah, j'étais la seule qui lisait beaucoup, en fait. Il n'y avait pas que moi qui avais des livres, mais bah, j'avais quand même une petite bibliothèque. Il manquait de la profondeur, je dirais, du sens. Je ne pouvais pas poser plein de questions comme je posais à Madame Nick, parce que bah, vous n'avez pas trop de réponses. S'intéresser à pas trop de choses, quoi. On se parlait pas beaucoup. Quand j'étais en quatrième, enfin, j'essayais au maximum de pas lui parler. Il y a des différences de style de pensée et de vie aussi, parce que elle comprenait pas des choses que, enfin, que pour moi c'était vital, avoir des amis, sortir dehors, enfin, à mon âge. Et les week-ends, c'était interminable. Le mercredi après-midi, c'était interminable. Le soir aussi, c'était interminable. Du coup, ça fait que quand j'étais à l'école, c'était un peu une sorte d'échappatoire, vu que à l'école, elle n'était pas là. Et les seuls moments de répit, c'était à l'école et quand je dormais. Elle disait que la chambre, c'était que pour dormir. Du coup, ben, je ne pouvais pas y aller pour lire. Parce que quand j'allumais la lumière, elle était au courant et elle me disait d'éteindre la lumière. Déjà, je lisais que quand c'était l'été, parce que l'été, les journées, elles sont plus longues. Ça fait que ben, je pouvais lire vers 19h, il faisait encore jour, donc je débarrassais mon assiette et j'allais le plus vite dans ma chambre pour lire. Elle nous interdisait d'avoir un téléphone, d'avoir tout ce qui est en communication. Et j'étais pas là, Mais en tout cas, elle a fouillé dans ma chambre et mon journal intime disparu. Donc, à mon avis, enfin, je m'en doutais que c'était elle qui l'avait pris. Donc, forcément, bah, je ne pouvais pas trop écrire. Donc, elle m'empêchait de vivre. J'étais dans un piège, en fait.
Le CDI est devenu un refuge, c'est-à-dire qu'elle restait le soir plus longtemps, elle devait un petit peu mentir sur son emploi du temps auprès de sa famille d'accueil sans doute pour dire « ben non, je finis pas à 15h30, je finis à 17h30 ». Les 2 heures volées, elle les passait au CDI, tous les midis elle était là et puis elle a investi ce lieu. Et là je me suis dit « elle mise tout sur l'école ».
Le CDI c'était un lieu de liberté. Et le CDI et l'école en général. Parce qu'à l'école, je me sentais bien parce que j'avais mes amis, j'avais les cours, parce que j'aime bien les cours. Et j'avais plein d'autres choses qui ne me faisaient pas penser à ce que j'allais vivre le soir. En fait, c'était au CDI que j'étais en sécurité. La personne qui m'accueillait chez elle, elle savait qu'à l'école, j'étais bien, mais elle savait aussi qu'elle pouvait un peu craindre l'école parce que c'était là où je pouvais tout raconter, en fait. Quand elle était en colère contre moi, elle me répétait « Oh, je regrette de t'avoir pris. » Et bah, du coup, ces mots, ça m'anéantissait parce que pourquoi tu m'as pris si tu regrettes de m'avoir faim ? Et il y avait aussi du coup son mari qui disait ça. Et ça m'avait choquée et anéantie. Et je m'en souviens, c'était même à table, elle avait dit ça. Et j'avais pleuré. Je le disais pas à mes amis. Par honte, je crois. Et donc, du coup, je me confiais à un adulte et je le disais à ma amie.
C'est devenu très compliqué pour elle de maintenir ce niveau d'exigence, cette curiosité, cette envie de travailler. Il y a eu une baisse de régime dans ses résultats scolaires. Voilà, quelque chose n'allait pas. Et là, je me suis dit, on ne peut pas la laisser dans ses difficultés relationnelles avec cette famille d'accueil où elle était en grande souffrance. Donc c'est à partir de là que j'ai fait ce à quoi je ne suis pas destinée, c'est-à-dire prendre en charge une souffrance personnelle et puis faire remonter ça jusqu'aux services sociaux. Et effectivement, elle a changé de famille et cette année, elle est beaucoup mieux. Si moi et la CPE n'avions pas décidé à un moment donné qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça, je ne sais pas ce qui serait advenu, mais elle n'avait pas d'écoute, elle n'avait pas de personne référente.
Il y a des sorties, des fois elle n'acceptait pas. Par exemple, j'avais fait un stage, en fait, je devais juste aller dans une entreprise, et c'était un stage de découverte, et elle disait non, tu iras là où il y aura de la place, mais je voulais faire plus en lien avec ce que j'aime, en fait, comme le journalisme ou des livres, ou des choses comme ça. Je sais pas, il y avait une sorte de jeu malsain, je sais pas. Parce qu'il y avait des choses qu'elle faisait exprès, et je savais. C'est comme pour le truc du salon du livre.
Elle était en classe de 5e, et il y avait un salon du livre à Bondu. Bondu, c'est une petite ville qui se trouve en banlieue lilloise. Et ce salon du livre amène quand même beaucoup de monde. Et Knowledge, évidemment, j'avais inscrit les élèves parce qu'il y avait un concours d'écriture. Et j'ai réussi à convaincre Knowledge de venir. Ça a été une bataille avec sa famille d'accueil qui n'a pas voulu qu'elle sorte de chez elle. On a réussi à y aller un samedi après-midi. Et puis, il y a eu la fameuse... l'année dernière, en classe de 4e, où là, cette sortie qu'on avait faite au Salon du Livre, que j'ai voulu renouveler avec elle l'année dernière, sa famille d'accueil a refusé. Elle n'a pas voulu la laisser sortir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre cette famille que voilà, ça avait un véritable intérêt, et elle n'a pas pu sortir. Et puis puis un jour, elle a éclaté en sanglots. On était dans la petite salle tout au fond du CDI, la petite salle refuge. Et puis là, elle a évoqué des choses très personnelles sur sa première famille d'accueil à laquelle elle avait été soustraite, mais qu'elle considérait vraiment, enfin la dame, elle la considérait comme sa véritable mère. Par des circonstances douloureuses, elle a dû en être retirée. Et elle ne pouvait plus être en contact avec cette femme. Et moi, je savais que c'était une grande douleur. Ça s'est passé brutalement. On lui a dit, ben voilà, tiens, viens avec nous. C'était les services sociaux. On va aller manger un truc quelque part. Et elle n'est pas revenue chez elle. Elle a été placée dans la seconde famille d'accueil, où ça s'est très mal passé. Et elle n'a jamais pu dire au revoir à cette femme qu'elle considérait comme sa mère. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible d'infliger ça à des enfants. C'est compliqué. Alors, je n'incrimine pas du tout les services sociaux. Ils font un énorme travail, vraiment. Mais elle a réussi à pouvoir prendre contact avec cette femme. Et quand je l'ai su, j'étais avec elle dans cette petite salle refuge. Et l'assistante sociale qui s'occupait d'elle m'a appelée en me disant « Madame Nick, voilà, j'ai une nouvelle pour vous. Est-ce que Nolette est à côté de vous ?» Je lui ai dit « Écoutez, oui, je vais la chercher. » Elle dit « Vous pouvez vous mettre dans un endroit tranquille, ce que nous avons fait. » Et là, cette assistante sociale me dit « Ben voilà, Nolette, tu vas pouvoir prendre contact avec cette dame. » Et là, c'est très émouvant pour moi parce que elle s'est mise à éclater en sanglots. Mais j'avais l'impression, mais c'est comme si on avait ouvert une vanne et que tout se précipitait, mais avec une violence. Oh, je savais pas quoi faire. J'ai pris dans mes bras. Après, je l'ai laissée. Elle a pleuré longuement. C'était des sanglots. Alors moi, j'étais à côté. J'ai dit oulala là là. Et puis on a fini par se calmer. J'ai su après que elle a pu revoir cette dame. Elle l'a vue cet été. Elle la voit régulièrement. Enfin, elles ont dû se dire plein de choses, mais voilà, ça s'est apaisé. Et elle aussi est apaisée. Ça a occupé beaucoup de place dans ma tête. Ça a demandé énormément d'énergie. Et puis toujours avec la question de la légitimité. Est-ce que je dépasse ce pourquoi on me paye, les raisons qui font que je travaille dans cet établissement? Est-ce que c'est une obligation morale? Est-ce que c'est un engagement personnel? Est-ce que ça fait partie de mon travail? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Mais c'était surtout beaucoup d'énergie. J'en parlais à mes amis, à ma famille, tout le monde connaît Knowledge.
Bah, à chaque fois, quand je suis au CDI, on me dit « Ah, voici la nouvelle documentaliste !» ou « Ah, t'es la secrétaire de Madame Nick !» ou des choses comme ça. C'est vraiment lui qui a changé ma vie. Ah, ça a changé toute ma vie. Tout.
C'est le grand vide, il n'y a plus rien. On a tout perdu. Ce CDI a été incendié dans la nuit du 27 au 28 juin dernier. Ils ont franchi les grilles et puis ils ont projeté des boules de pétanque dans les fenêtres. On voit d'ailleurs là les endroits où il y a des plaques de bois qui les remplacent. Ils sont rentrés, ils ont mis des bidons d'essence, ils ont mis le feu et puis voilà. Donc c'est vrai que quand je me suis retrouvée dans la cour, là, devant cette catastrophe, ça a été le choc. C'était la consternation, tout ça sentait la fumée, tous les étages. Et il n'y avait plus rien. J'avais à mon bureau plein de choses, des petits cadeaux d'élèves, des petits mots, beaucoup de photos aussi de tous les événements qui ont pu ponctuer toute une carrière professionnelle. J'avais mon bureau près de la fenêtre, à côté d'un faux palmier en plastique qui donnait un petit air d'exotisme avec le fauteuil sur lequel les élèves pouvaient s'installer et lire tranquillement. Et puis voilà, il reste absolument rien. On a tout perdu. Je me suis dit tout de suite, il va falloir qu'on refasse quelque chose. Mais quand même, j'ai réussi à sauver trois objets. À mon bureau, il y avait un globe terrestre que j'allumais régulièrement et que les élèves s'amusaient à faire tourner. Puis il est beau en plus. Et il n'a pas brûlé, il était à mon bureau. On l'a nettoyé, on l'a lavé et il fonctionne encore. Et puis, deux autres lampes que les élèves aimaient beaucoup, qui changent de couleur. Enfin, c'était super beau. Et là aussi, on les a lavées, nettoyées. Ça fonctionnait toujours. Miracle. Et donc ça a été sauvé. Voilà, la lumière a été préservée.
J'étais déchirée quand j'ai appris que lorsqu'il y avait brûlé. Ça m'a fait mal au cœur un peu. Mais bon, après, il y a le CD provisoire. Bon, c'est pas aussi grand que l'autre, mais il est tout aussi bien. Quand il n'y avait pas beaucoup d'élèves, j'aidais le personnel à monter les tables, les chaises et à récupérer les objets. Parce que du coup, il y avait aussi des objets qui ont brûlé et il y en a qui étaient restés intacts. Du coup, moi et ma amie, on est partis chercher en bas, mais il y avait plein de cendres de suie à terre. On est quand même partis chercher. Et il y avait aussi des fenêtres cassées. Et c'est là que j'avais écrit les panneaux en bois, parce que du coup, vu que les fenêtres étaient cassées, j'avais marqué CDI Zola avec un cœur. Et j'avais marqué un autre truc sur un deuxième panneau, mais je m'en souviens plus, c'était quoi.
Ah, je l'ai vu, celui où il y a écrit « On n'a plus de CDI, mais on a des CDI ».
Ah oui, c'est moi qui ai écrit ça.
Cette année, c'est la dernière année de Knowledge. Alors, elle est dans, je trouve, beaucoup plus apaisée. Je sens qu'elle s'échappe. Je le sais, il y a plein de signes. C'est plus la petite fille de 6e qui me collait au basque le midi en train de lire « La naissance du monde » en 100 épisodes. Elle doit réfléchir à son avenir, à son futur. Et là, il y a une grande question qui se pose, puisque nous sommes en cité scolaire. Est-ce qu'elle va rester au lycée l'année prochaine, dans la même enceinte, ou est-ce qu'elle va aller ailleurs? Et quand elle me pose la question, je ne veux pas lui répondre, et je lui ai dit plusieurs fois, c'est pas moi qui te retiendrai, au contraire, si tu as envie de changer d'air, parce que je pense que c'est ça qui, maintenant, a l'air de la motiver, c'est de vivre autre chose avec d'autres gens ailleurs. Et je ne peux que l'encourager, même si au fond de moi... Mais ça, je ne peux pas lui dire, je me l'interdis. Peut-être que le lien cessera physiquement, réellement, mais il ne peut pas s'effacer. Dans ma tête, il ne s'effacera pas. C'est comme avec les enfants, il faut savoir les laisser partir. Hein. Dans le CDI qui a brûlé, derrière mon bureau, il y avait une petite photocopie, un petit truc que j'avais trouvé dans un musée, une carte postale. Soyez curieux. Ouais, soyez curieux. Être curieux, c'est aussi ailleurs, quoi. Je pense que Knowledge, elle a fait le tour ici. On est à un tournant. J'espère que voilà, ça a servi à quelque chose.
Je sais pas si Madame Nick sait ce qu'elle reprend pour moi, mais enfin, je lui ai dit, mais pas de façon explicite en fait. Mais bon, je crois qu'elle s'en doute un peu. J'ai vécu tellement de trucs là-bas. Je me souviens qu'à la fin d'année, on faisait à chaque fois le grand ménage. Et que du coup, ma mamie, elle commandait des pizzas à côté. Et on mettait une serviette, on mangeait dehors. Et après, on faisait le grand ménage, on prenait des enceintes. Et on nettoyait en même temps qu'on écoutait de la musique. Ça, c'était trop marrant. Et après tout ce que j'ai vécu au quotidien chez ma famille d'accueil, c'est le collège et le CDI qui ont concrétisé toutes ces idées. Parce que le fait que j'aime beaucoup lire, c'était parce que je pouvais pas le faire avant chez moi. Le journalisme, je sais pas, c'est une passion comme ça qui est venue. Ça a implanté quelque chose chez moi, enfin, comme une graine. Si je vais dans un autre lycée, ce serait trop bizarre. Je vais dans un CDI, mais je fais pas par la fin. Je pourrais parler à documentaliste, mais ça serait pas du coup Madame Nick. Ça qui serait bizarre en fait. Je sais pas, je crois que je vais quand même changer de lycée, mais. Et là, de me dire que je suis en 3e et que dans même pas 6 mois peut-être, on va tous prendre des chemins différents, ça me rend triste un peu. Ça me fait quelque chose. Parce que là, après, on a le brevet, et après, ouais, ce sera fini. Mais Après, je peux aussi rester éternellement dans le collège, donc. Mais ouais, ça me ferait vraiment un pincement au cœur. Qu'on va tous prendre des voies différentes.
Tu sais ce que ça veut dire, knowledge ?
Knowledge, ça veut dire la connaissance, en anglais. Je sais pas, je me suis dit, peut-être que mes parents, ils savaient à l'avance que j'étais peut-être curieuse. Du coup, peut-être qu'ils m'ont appelée comme ça, pour ça. Maintenant, je l'aime bien, comme prénom. Même si au début, j'aimais pas trop l'écrire, parce que du coup, j'avais 9 lettres, et à chaque fois, je galérais en CP à l'écrire. Mais maintenant, je l'aime bien.
C'était Knowledge et le CDI, un reportage d'Alice Babin réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci bien sûr à Knowledge, à Madame Nick, à la cité scolaire Émile Zola de Waterloo. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.
Visionary controversy in harmony, mesmerizing. Visionary controversy.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.